Europe 1.
Europe 1.
Antenne libre.
Yann Moix accompagne vos nuits.
Antenne libre en direct sur Europe 1, le dernier soir de la semaine. Antenne libre. Une antenne libre ce soir un peu spéciale, comme tous les soirs en fait. Mais d'abord, je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas au 39 21 50 centimes par minute. Et nous vous rappellerons. Vous pouvez réagir au témoignage en envoyant un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit tout en majuscule et envoyer des mails à libreantenne@europe1.fr. Une antenne libre très spéciale puisque ce soir c'est un mini club de la terrasse. Mais comme il fait bon, il fait chaud, je n'enverrai personne sur la terrasse. Non, c'est pas drôle. Et puis comme ils sont peu nombreux, et puis que c'est dimanche, c'est pas un vrai club de la terrasse. Voilà. C'est plutôt, on va appeler ça le Félix Club. Le Félix Club, je vous rappelle que pour faire partie du Félix Club, il faut avoir des lunettes fumées. Parce que c'est Victor Dumiau qui normalement s'occupe du club de terrasse. Mais quand c'est des éditions spéciales, c'est le Félix Club. Donc il faut avoir un blouson de cuir, être déguisé comme dans un film de Belmondo en 74, avoir des lunettes fumées et être musclé, enfin un peu comme un mastar, quoi. Et avoir quand même le sens de l'humour, hein. Sinon, j'aurais déjà pris son point quelque part. Eh bien, autour de moi, j'accueille Aline.
Oui, bonsoir Yann.
Comment ça va Aline ?
Très bien, merci. Et vous ?
Très bien. Oui, parce qu'ici, je tutoie, mais on me vouvoie. C'est comme ça que ça fonctionne.
Je peux vous tutoyer ?
Ah bah si vous voulez.
Tu vas bien.
Raphaël.
Bonsoir Yann.
Comment ça va Raphaël ?
Bah, très bien.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Victor, comment ça va ?
Bonsoir Yann, ça va très bien.
Toujours rédacteur en chef d'Année Zéro ?
Toujours rédacteur en chef de cette magnifique revue qui est Année Zéro. Oui.
Alors vous en êtes où, monsieur le rédacteur en chef, de vos pérégrinations guitriques ?
Alors nous avons fini la fouille dans les archives de Guitry, nous avons fini les retranscriptions, et je peux vous dire qu'il y a du très très lourd.
Chez notre ami Jean-Claude Nashba.
Chez notre ami Jean-Claude Nashba, que nous saluons, qui nous écoute ce soir.
Ah, il nous écoute ce soir, Jean-Claude ?
Ah oui, il nous écoute.
Alors on fera un spécial Nashba, hein. On ira faire une visite chez Jean-Claude Nashba, qui est un homme absolument délicieux, formidable, très fin. Et c'est un immense collectionneur de Sacha Guitry. Lui-même ne connaît pas tous les trésors qu'il a, c'est grâce à Victor qui s'en est rendu compte. Ça fait plus de 30 ans qu'il collectionne tout ce qui a trait à Sacha Guitry. Et évidemment, connaître M. Nashba est quelque chose de très important en guitrologie, parce qu'il nous a ouvert son musée, et son musée n'est pas imaginaire, il est réel. Et nous allons donc faire un numéro spécial d'Année Zéro et les archives, les trésors de Jean-Claude Nashba seront donc désormais à la portée de tous ceux qui s'intéressent à ce génie qu'était Sacha. Et évidemment, Félix, puisque c'est le Félix Club. En quoi consiste exactement le Félix Club, Félix ?
Le Félix Club consiste à parler de moi.
Donc, ce soir, on fait du Félix Clubbing,
oui.
En fait.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il y a un dress code qui est très important.
Alors, il paraît qu'il y a une soirée un peu spéciale ce soir. Il y a une soirée à thème.
Oui, une soirée Michel Delpech.
Ah, c'est Michel Delpech. Et en quoi ça consiste, cette soirée Delpech ?
Eh bien, la soirée Michel Delpech, elle consiste, comme la soirée Motorhead, à une lecture de...
Un peu talmudique.
Un peu talmudique, exactement. Des paroles de quelques chansons de Michel Delpech que chacun a choisi ici.
Très bien.
Et on en parle, et puis on l'écoute, et puis on prend un auditeur un peu fan qui nous appelle, etc.
Très bien. Je ne vous présente plus Mathilde.
Non.
D'accord. Plus personne ne présente Mathilde à personne. Hein. Mathilde, bonsoir.
Bonsoir Yann, bonsoir le Club de la Terrasse, et bonsoir à toutes et à tous.
C'est pas le Club de la Terrasse, un gage.
Ah, bonsoir, le Félix Club.
Et ce soir, nous faisons du Félix Clubbing.
Du Félix Clubbing, exactement. Voilà. Et alors, ce soir, vous allez écouter l'extrait d'un concert, un musicorama bien sûr, mais pas n'importe lequel, puisque c'est la première fois qu'un musicorama était enregistré au Palais des Congrès. Il s'agit de groupe de rock Roxy Music, qui interprète Editions of You, et ça s'est passé sur Europe 1 le 27 novembre 1974.
Europe 1, antenne libre.
Yann Moix.
Bonsoir, vous êtes avec le Félix Clubbing, il est 23h19. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas au 39-21, 50 centimes la minute. Pour réagir au témoignage, envoyez votre SMS au 7-39-21 en commençant par le mot « nuit ». Et vous pouvez également, quand vous le souhaitez, nous contacter par mail à libreantenne@europe1.fr.
Et oui. Nous allons faire 2 heures de Félix Clubbing ensemble. C'est pas à la portée du premier venu.
Non, ça se promet.
Et à tout seigneur, tout honneur, c'est donc Félix qui va commencer par cluber, puisque c'est son club.
Donc moi, je vais vous parler d'une chanson.
Alors attends, on propose évidemment une soirée Delpech. Les auditeurs qui voudraient évidemment rebondir sur Michel Delpech, quel que soit le sujet delpechien qu'ils souhaitent aborder, peuvent le faire. Hein. Donc 39-21. Donc ce soir, spécial Delpech, on va donc étudier les paroles de Michel.
C'est ça.
Félix, c'est à toi.
Cette chanson de Michel Delpech, Le Loir est cher, musique de Michel Pelet, paroles de Michel Delpech et Jean-Michel Riva, single à succès de l'année 1977, ce rock champêtre, hommage à la terre grasse qui colle au godillot, ma mère la déteste. Maman, je m'adresse à toi ce soir, je sais que tu m'écoutes. Tu as passé les premières années de ta vie dans un village de la Sarthe, à quelques kilomètres du Loir-et-Cher, et tu as grandi dans ce décor que je connais bien désormais, qui est celui des livres de Maurice Genevoix. Genevoix était l'auteur d'un roman qui s'appelle « Rabolio ». À la Chartre, ton berceau, qui du coup est aussi un peu le mien, tu étais, sous le regard de la Raymonde, barmaid à l'Hôtel de France. Et c'est depuis ce comptoir que tu as croisé, à toute vitesse, celle de tes 20 ans, la route des coureurs historiques des 24 heures du Mans, de Jackie X à Derek Bell, en passant par les aficionados des sports automobiles, Pierre Salinger, Bob Kennedy, Steve McQueen. Et une fois le service terminé, au temps des flirts plus qu'au temps des fleurs, où allais-tu danser, maman ? Dans cette boîte de nuit, cette discothèque, disais-tu, à l'ambiance chaude et remuante, qui s'appelait, en mémoire de l'auteur de ceux de 14, le Rabolio. Ou peut-être était-ce papa ? Toi, tu allais à la diligence, la deal. De cette jeunesse mythologique dans la Sarthe, j'ai capté quelques-uns de tes souvenirs que je croise avec les histoires que me raconte celui que tu appelles ton homme depuis 40 ans. Et puis je les croise désormais, ces anecdotes, avec celles des vieux copains. Je pense à Philippe, dit Kinou, à Jean-Mi, dit Pozob. Je pense à Françoise, à Christophe, à Guy et Régis, à Catherine, que je rencontre depuis que nous sommes installés, depuis le mois de février dernier, dans le village de ton enfance. Après de longues et belles années sous le soleil de feu du sud, perdu au milieu des oliviers et des souches de vignes, quand l'odeur du raisin se mêlait à celle des oranges et du mimosa, un retour à la terre natale s'est amorcé. Ce sera la Sarthe, encore et toujours. Et le Loir-et-Cher, qui est si proche des lieux de ta jeunesse, de ta genèse. Pourtant, à l'heure du changement, lorsqu'il fallut choisir un point de chute, un nouveau point d'ancrage, tu as toujours répété « Le Loir-et-Cher, jamais ». Je n'ai jamais trop compris pourquoi. D'ailleurs, tu ne dis pas « Le Loir-et-Cher », tu parles du 41. Et ironie du sort, nous avons atterri dans la Sarthe, oui. Mais le Loir-et-Cher est au bout du chemin, si proche de notre jardin. Tu vis, nous vivons, dans la dernière maison de la Sarthe avant le Loir-et-Cher. Il y a là une frontière à ne pas dépasser, et nous ne l'avons pas franchie. Nous sommes restés au seuil de cette terre dont parle Michel Delpech. Je vois les champs et leurs sillons, les hectares de terre retournés depuis ma chambre. Ce paysage du Loir-et-Cher me semble si proche, pourtant, de celui qui est le tien. Et aujourd'hui, moi, le piéton de Paris, je fais le grand écart entre les immeubles d'Haussmann et les maisons bâties dans le tuffeau. Je comprends tout de cette chanson de Michel Delpech. J'en fais l'expérience. J'étais hier soir avec vous et cette bande de copains, les vôtres, ces gens qui ne font pas de manière. Et nous trinquions avec Kinou et Jean-Mi lors d'un trou normand homérique, sorte de remake de la scène de la cuisine dans les tontons flingueurs, avec cet alcool qui n'avait pas de nom, remonté depuis la cave dans une bouteille sans étiquette, déformée par le temps qui passe. C'est de ces retrouvailles et de ces trouvailles, avec les lieux de l'enfance et ses habitants qui vivent au rythme des saisons, qui s'en vont n'en pas bouger, que raconte Michel Delpech. Il parle de ces dimanches dans le Loir-et-Cher qui ressemblent tant au samedi dans la Sarthe que tu me fais vivre. Il raconte ce malentendu légendaire entre Paris et la province, entre ceux qui possèdent l'antique savoir de la nature et ceux qui ne l'ont connu, cette nature, qu'en déambulant dans les allées du Père-Lachaise et au Jardin des Plantes. Entre ces gens de peu et ces gens de trop, mais boursouflés les uns et les autres de préjugés sans âge, qui n'ont a priori rien à se dire, mais qui auraient finalement tant à partager dans le silence de la terre. J'ai décidé, grâce à toi, de ne pas choisir, de faire des allers-retours. Me voilà comme Michel Delpech, rat des villes et rat des champs. Sa chanson, Le Loir-et-Cher, c'est l'hymne des petits plaisirs, des bonheurs simples, des déjeuners dont on sort à la nuit tombée, repu de rire et ivre du vin de l'amitié. C'est une louange à la famille, celle que l'on ne choisit pas, et à celle des amis que l'on se choisit. Le Loir-et-Cher, c'est une chanson en formica, en chrome 70s et en pyrex caramel. Une chanson qui sont les bottes en caoutchouc et l'herbe mouillée, le vin des coteaux de Janière et la viande en sauce, le tabac à rouler et les roseaux détrempés des bords de la Loire. Hier, j'étais dans la Sarthe, et ce soir, je suis à Paris. Et demain, maman, je viens te retrouver, et nous irons au bout du jardin. nous promener dans le Loir-et-Cher.
Magnifique texte de Félix sur cette magnifique chanson de Michel Delpech dont on a vu la tombe avec mes amis Benoît, Nicolas et Mathilde lorsqu'on a fait l'émission de nuit au Père Lachaise en direct il y a quelques semaines et quelques mois. Oui, un grand monsieur, Michel Delpech, d'ailleurs, qui a trouvé la foi à la fin de sa vie, enfin, dans les mêmes 20 dernières années de sa vie. Et à l'époque où il a composé le Loir-et-Cher, il était en proie à une dépression profonde. Il a quand même trouvé la force de faire ce chef-d'œuvre, alors qu'il ne coïncidait déjà plus avec celui qu'il avait failli être. Donc vraiment, Félix, je ne sais pas ce que vous pensez de son texte.
C'était sublime.
C'était très doux.
Très, très beau.
N'hésitez pas, les auditeurs et auditrices, à nous appeler au sujet de Michel Delpech.
Ou du texte
3921. Nous vous prendrons bien sûr, puisque c'est votre émission. Et c'est pour vous ce soir que nos amis du Félix Clubbing ont choisi Michel. Félix, à qui allez-vous transmettre le flambeau pour le deuxième Delpech ?
Oh bah écoute, à mon voisin de droite, à Victor.
Très bien. Bah, je vous laisse faire, Félix.
Ah bah alors Victor, parle-nous. Alors quelle chanson est-ce que tu as choisi ce soir ?
Alors j'ai choisi la chanson « Les aveux » de Michel Delpech.
Je rappelle quand même que la moyenne d'âge de nos amis, c'est quoi ? Votre moyenne 25 ans, vous avez tous les quatre à peu près. Hein.
23.
Oui, enfin bon, en moyenne j'ai dit. Et donc ce sont des étudiants, certains qui travaillent. D'ailleurs, on va rappeler ce que vous faites quand même. Aline ?
Alors je suis dans la communication.
Raphaël ?
Moi, je fais un master de création documentaire et j'assiste une réalisatrice et je fais un peu de ghostwriting.
Félix ?
Moi, je suis auteur pour ma chère revue La Règle du Jeu.
Et Victor, on l'a présenté tout à l'heure, année zéro. Normalien, philosophe et écrivain, Victor va sortir son premier roman au mois de septembre.
Absolument.
Acide.
Acide.
Aux éditions Bouquin.
Oui.
Voilà, premier roman, c'est pas rien, hein.
Ça compte.
26 ans.
Qui est excellent.
Et donc, voilà, je voulais quand même vous dire que ce soir, c'était émouvant, puisque des jeunes de 25 ans font découvrir ou découvrent même Michel Delpech. Félix, je vous redonne la parole.
Donc Victor, parle-nous des aveux. Fais-nous les aveux des aveux.
Alors dans cette chanson qui date de 1974, Michel se fait juge de Delpech, Delpech se fait juge de Michel, en appliquant la méthode très rousseauiste de la confession. Les aveux dont il est question sont ceux d'un homme qui a passé sa vie à mentir à la femme qu'il aime, ou plus exactement, ils sont ceux d'un homme qui a passé sa vie à mentir pour être aimé de la femme qu'il aime. Il est fatigué, le prince charmant, il est fatigué, son beau cheval blanc, chante Michel Delpech. Ici, de manière allégorique, l'homme qui avoue son épuisement met à distance le personnage qu'il s'est construit via l'évocation négative de tous ses attributs. En effet, fatigué, le beau cheval blanc, en fer blanc, son épée d'or, et beaucoup trop gris, son rêve bleu. L'opération de dévoilement consiste précisément à révéler tout ce qu'il y a de toc, tout ce qu'il y a de bidon, tout ce qu'il y a de faux dans son existence. C'est l'escroc qui démonte l'architecture de son escroquerie. C'est le mythomane repenti qui démontre comment il a passé sa vie à la contrefaire, comme si tout n'était qu'un pauvre décor de cinéma. Le champagne sur la table ? Oh, un mousseux à 1,50€. La Porsche Carrera de couleur gris métallisée garée en bas, empruntée à des amis en échange d'un bon nettoyage. Les vacances en Asie l'été dernier, discrètement financées grâce au concours d'un organisme opaque et à des crédits revolving au taux d'intérêt très élevé. En bref, le prince charmant est en réalité, et comme d'autres êtres humains, un loser astucieux. Michel n'a donc plus envie de tricher. Et s'il avoue ce soir devant celle qu'il aime, s'il se met proprement à nu, « j'ai toujours été plus gentil que moi », dit-il, c'est parce qu'il espère que le courage de sa vérité suffira à pardonner ses mensonges. C'est le coup de la fameuse faute avouée à moitié pardonnée. À l'écoute de cette chanson, je pense à deux choses. D'abord, qu'il n'a jamais menti pour séduire. On s'apprécie parfois avec tellement de hargne, de honte et de mépris que l'on se considère impossible à aimer. On voudrait être complètement différent, totalement singulier. On aimerait être celui qui ne peut pas ne pas être aimable, comme on dit des produits au supermarché qu'ils sont consommables. Et pour cela, il faut devenir un autre. Le menteur utilise le discours comme le costumier se sert du fil de coton. Tout le monde le fait, au fond. Pour embellir, pour arranger, pour effacer. Le mensonge, c'est du cirage. Le mensonge, c'est une lavette. Il existe bien sûr un spectre du mensonge, car tous ne se valent pas. Il y a le mensonge par omission de l'infidèle qui ne durera qu'une nuit, même si cette nuit s'étend sur des années. Il y a le mensonge d'un fumeur, un peu comme l'homme de cette chanson, justement, qui s'exagère sans cesse parce qu'il est insatisfait.
Et on peut ici souligner le poids de la tradition, le poids de l'éducation, le poids de la nécessité d'être un homme à la hauteur, le poids de la nécessité d'être un homme qui ne plie pas, qui ne cède pas, le poids d'être un homme qui réussit pour mériter d'être aimé. Toutes ces attentes normatives qui sont culturelles, qui sont sociales, ont de quoi rendre fou ou mythomane. Car c'est bien tout le risque d'un mensonge de cette nature. Préférer le moi mensonger au moi réel, ne plus chercher à se fouiller, à s'explorer, mais se contenter d'être une image, une effigie. Un moi sans profondeur, un simple simulacre. Il ne faut pas non plus oublier que le mensonge n'est jamais solitaire. Et si certains s'en servent, c'est parce que d'autres se contentent de croire. C'est parce que d'autres, ici l'être aimé, ne veulent pas voir autre chose que ce qu'on leur glisse sous les yeux, que ce qu'on leur chante dans les oreilles. Ceux-là se contentent de tout. J'ai du mal à savoir d'ailleurs qui est le plus menteur, celui qui se ment à lui-même pour permettre à l'autre de continuer à lui mentir, ou bien celui qui ment. Enfin, pour conclure, en repensant au mensonge que j'ai moi-même parfois employé, je l'avoue, je me dis que peut-être un jour, on interdira tous les mensonges. La parole sera réglementée à ce point, notre régime de véridicité sera encadré à ce point, que la femme, dans la chanson à qui l'homme avoue tous ses mensonges, au lieu de passer pour une naïve, au lieu d'être simplement déçue, trompée, trahie, insultée, humiliée, pourra porter plainte et transformer celui qui n'était qu'un simple salaud en un criminel. Oui, peut-être qu'existera un jour l'obligation individuelle à la transparence. Et alors, on aura fait la lumière sur toutes nos zones d'ombre, sur tout le mystère qui fait le charme de certains individus. Et qu'importe si ce mystère est en réalité de la fumée. Seront interdites les fictions personnelles, les mystifications, les postures et les impostures. Et il n'y aura alors plus que des idiots qui se contentent d'idiotie. La séduction ne sera plus un jeu et donc un risque, mais un simple rapport entre individus. Peut-être qu'un jour, on consacrera à ce point la vérité qu'on fera le procès de tous ceux qui osent non seulement mentir, mais répandre leurs mensonges par-delà les esprits, en faisant ce que l'on nomme de la fiction, en écrivant des romans. Peut-être qu'un jour, on punira ces écrivains d'un ancien temps parce que leur parole est trouble, parce qu'on ne sait jamais s'ils disent vrai ou faux, parce que le doute, l'ambiguïté, la contradiction sont devenus insupportables. D'ailleurs, peut-être que ce monde a déjà commencé. Alors peut-être que oui, ce nouveau monde évitera de nouvelles affaires Jean-Claude Roman, et le succès des salopards, des porcs qui ont fait du mensonge un instrument de prédation. Peut-être et tant mieux. Mais peut-être aussi que protéger le mensonge, c'est garantir la vérité. Peut-être que quelques aveux, dont rien ne dit s'ils ne sont pas moins mensongers que les mensonges qu'ils servent à pardonner, valent mieux que l'impossibilité des aveux. En finir avec la fiction, c'est condamner la parole à n'être qu'une encre séchée. Et voilà aussi ce que nous dit Michel Delpech dans cette chanson.
Le Félix Club, c'est sur Europe 1. Il est 23h38. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas au 39-21, 50 centimes par minute. Pour réagir au témoignage, envoyez votre SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit. Et vous pouvez également, quand vous le souhaitez, nous contacter par mail à libreantenne@europe1.fr.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, je vous propose d'écouter un peu de poésie avec un extrait de l'émission Campus qui était animée par Michel Lancelot et qui a été diffusée de 1968 à 1972 sur Europe 1.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement. Couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, Oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure, à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle. Tu te fondais à lui comme une neige au feu, tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.
Arthur Rimbaud, dans une émission de Michel Lancelot, émission créée par François Jouffat, que nous saluons et que nous allons bientôt inviter. C'est toujours le Félix Club, il est 23h42. Antenne libre. Je suis ce soir en compagnie d'Aline, de Raphaël, de Victor et de Félix. Félix, puisque c'est son clubbing, auquel je redonne immédiatement la parole.
Donc là, on va passer à une autre chanson.
On est toujours en Delpêcherie.
Ah, on est toujours en Delpêcherie, oui, oui, les deux pieds dans la gadoue. On est toujours là. Et donc là, moi j'aimerais bien que Aline nous parle de sa chanson pour un flirt.
Oui.
Elle a choisi pour un flirt, Aline.
Absolument.
Évidemment. Je ne change pas de
c'est
catégorie.
C'est une invitation.
Michel Delpech, pardon, Michel Delpech sort pour un flirt composé par son ami Roland Vincent, son partenaire musical. Le titre est l'un de ses plus grands succès d'ailleurs, et il marque un tournant dans la chanson française, mais aussi dans le langage usuel. C'est le tube de l'été 1971, et je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui est pour un flirt.
Oui.
Il était 5h du matin, un retour sans gros butin. Encore un soir un peu trop noir, rentré trop tôt, ou bien trop tôt.
On va mettre du Francis Lay là-dessus. Attends, Aline, on va mettre du Francis Lay là-dessus. C'est parti, vas-y Aline.
Pardon, je recommence ?
Oui, je t'en prie, c'était mieux avec du Francis Lay derrière.
Il était 5h du matin, un retour...
Prends ton temps pour lire, vas-y calmement, tu es trop rapide, on recommence, vas-y.
Pas de soucis.
Ah non, et tu dis pas de soucis, sinon tu prends la porte. L'expression pas de soucis est bannie dans le Félix Club. On recommence.
Très bien. Il était 5h du matin, un retour sans gros butin. Encore un soir un peu trop noir, rentré trop tôt ou bien trop tard. La tête dans le coltard, je sais plus qui croire. Le Christ ou bien la poire, moi encore le pilier de comptoir. Mes cartouches bien placées, le fusil pas encore tiré. Trop plein dans le nez, la cause à ma timidité. La même qu'à l'époque de l'acné. Le whisky en guise de compagnie, boire plus pour toutes ces filles bien trop jolies. Tour, un petit jour entre mes doigts. Tour, un petit jour entre tes bas. Mes yeux de chien battus pour quelques filles trop courtes vêtues. Maltraité par l'existence, gentil dépressif a besoin d'assistance. Apostrophé par le serveur, plein de sueur, c'est déjà l'heure. Il m'a sorti de mes songes, promis, je dirai plus de mensonges. Allons, sortons de ce bistrot. 1, 2, 3, mon courage à deux mains. 4, 5, 6, verre de trop. 7, 8, 9, on verra mieux demain.
Sur Europe 1.
Venez vous confier à Yann Moix en appelant le 3921
50 centimes la minute.
On connaît la fille qui fait dans ce qu'on vient d'entendre là, non? Qui fait non. On va l'inviter, hein, je pense, ce serait sympa. Enfin, c'est Félix, c'est à la demande de Félix. Hein. Bien fait pour vous, c'est une émission, alors bien fait, c'est écrit en un seul mot, hein, de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, que nous embrassons, que nous saluons. Et cette émission a lieu du lundi au vendredi de 11h à midi. J'ai pas à minuit quand même. Et lundi 20 mars, la question du jour sera « Vous êtes pudique ?» pour l'interrogation. Et c'est exactement le même numéro que le nôtre pour les contacter. 39-21, 50 centimes par minute, c'est le standard d'Europe 1. Et vous pouvez laisser vos messages et elles vous rappelleront, Mélanie et Julia, pour vous faire participer. Donc la question du jour sera « Vous êtes pudique ?» point d'interrogation. Question qu'il ne faut surtout pas poser à Félix. Alors Félix, il nous reste quoi là dans l'escarcelle delpechienne?
Ah bah déjà, merci Aline pour ce
très beau texte,
ce poème.
Je veux dire que la qualité est belle hein, pour l'instant.
Ah, la qualité est très belle. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la qualité est belle du côté de Raphaël?
Mais j'espère. Alors moi j'ai choisi « Quand j'étais chanteur », sorti en 1975 sur l'album éponyme, écrite par Michel Delpech et Jean-Michel Rivard, composé par Roland Vincent. Le tube a connu un grand succès commercial. J'ai choisi cette chanson d'abord parce que je la trouve belle. Elle donne envie de se trémousser doucement, d'un mouvement lent des hanches, sans forcément casser la baraque, mais dans l'esprit de la paisible nostalgie que la mélodie évoque. J'ai aussi choisi cette chanson parce que je suis persuadé qu'elle dissimule un sens bien plus profond qu'elle ne laisse l'entendre. Michel Delpech a 29 ans lorsqu'il écrit. Il s'imagine plus vieux, à 73 ans, Mick Jagger serait déjà mort et tous ses souvenirs, même les plus tragiques, sont sujets à la nostalgie. Il dit « Ma femme attendait planquée dans la Mercedes, elle s'est fait jeter dans l'Indre, par tout mon fan club, j'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. » C'est quand même fou. Il nous dit que sa femme vient de clamser dans l'Indre, et nous on sourit bêtement, on se laisse aller à la mélodie, et on soupire en se disant « Ah, c'était mieux avant, l'époque de Delpech, au moins tout le monde était content. » Pourtant non, tout le monde n'était pas content à cette époque. Regardez le pauvre narrateur de la chanson. Il a bien dû être triste quand sa femme a péri sauvagement dans l'Indre. Alors, que nous dit la chanson? Moi, je la comprends comme une éloge irréductible de la nostalgie. Il nous dit, tournons-nous vers le passé et essayons d'y voir le meilleur. Peu importe s'il était réellement mieux le passé, mais utilisons son souvenir pour améliorer notre présent. Au moment de l'écriture de cette chronique, j'étais justement en train de lire un texte, Simone Veil avec un W, la philosophe mystique pacifiste. Et Delpech m'a tout de suite évoqué ces lignes de l'Iliade ou le poème de la force, qui est un texte merveilleux, fin et je crois très important. Elle écrit « Toujours, le mouvement descendant est la condition du mouvement montant. Une loi analogue régit les choses spirituelles. Ce qui est le meilleur, ce qui est le meilleur que nous ne pouvons le trouver dans l'avenir. L'avenir est vide et notre imagination le remplit. La perfection que nous imaginons est à notre mesure, elle est exactement imparfaite. » Nous pouvons la trouver dans le présent, mais confondue avec le médiocre et le mauvais. Le passé nous offre une discrimination déjà opérée. Rien ne vaut la piété envers les patries mortes. Parler de Veil en parlant de Delpech, rien de profane, rassurons les plus puristes nos auditeurs, chacun parle à son audience, chacun parle à son public, parfois le même. Tous deux nous invitent à nous tourner vers ce qui n'existe plus pour enrichir ce qui existe encore. Alors je vous dis, écoutons Delpech, son sourire et ses mélodies, qui éclairent notre époque, parfois un peu terne. Tournons-nous vers le passé, mais, pour citer la chanson, de grâce. Ne ramenez pas les boots blanches, le gros ceinturon et la chemise ouverte sur le médaillon.